Bonsoir. Fin du numerus clausus et création du métier d'assistant médical, deux mesures phares du plan santé d'Emmanuel Macron qui sera présenté demain. Dans un instant, Tara Schlegel nous détaillera les trois principaux axes de cette réforme. Anne Hidalgo perd son premier adjoint, Bruno Julliard démissionne pour exprimer son désaccord avec la maire de Paris à 18 mois des élections municipales. Les explications d'Adrien Toffolé et le commentaire de notre invité Héry Routier qui a écrit « Notre drame de Paris » avec Nadia Lebrun. Aux États-Unis, le candidat de Donald Trump à la Cour suprême est en difficulté ce soir. Brett Kavanaugh fait face à des accusations d'agression sexuelle. La victime présumée est une universitaire démocrate. Nous ferons le point avec Grégory Phillips à Washington. Le tourbillon des réformes macroniennes continue. Le président dévoilera demain son plan santé. On en connaît déjà certains éléments, comme la suppression du numerus clausus pour les études de santé, médecine notamment. Il y a aussi ce chiffre, 400 millions d'euros supplémentaires pour l'assurance maladie. Avec vous, Tara Schlegel, on fait le point sur les trois axes de ce plan santé.
Le gouvernement veut permettre d'abord aux médecins de regagner du temps médical. Il crée la profession d'assistant médical. Il en existe dans les pays anglo-saxons. Infirmiers, aides-soignants ou secrétaires médicaux, le profil est encore à définir. Mais d'ici 2022, ils seront 4000 assistants payés par l'État à travailler pour un groupement de médecins libéraux ou généralistes afin de les aider. Déshabiller un bébé, vérifier qu'une personne âgée s'hydrate bien, voilà les exemples cités. Gagner du temps médical, donc, mais aussi, deuxième axe, mieux coordonner l'offre de soins. Les professionnels s'organiseront pour créer ce qu'on va nommer des urgences de ville afin d'orienter les patients ailleurs que vers les hôpitaux. Pour remédier aux déserts médicaux, l'État va aussi salarier 400 médecins volontaires. L'incitation sera financière. Et puis, c'est la fin du numerus clausus qui limitait le nombre d'étudiants en médecine. Ce verrou-là saute officiellement. Enfin, troisième axe, veiller à la qualité des soins. Il faudra vérifier sans fermer d'hôpitaux de proximité car on en a besoin, que les soins entre établissements sont bien répartis. L'idée est aussi de sortir tout doucement de la tarification à l'activité qui génère une inflation d'actes inutiles, c'est l'un des credos de la ministre. Dès l'an prochain, le gouvernement expérimentera un forfait pour les patients diabétiques notamment, des malades chroniques qui coûtent très cher à la sécurité sociale puisqu'ils consultent un grand nombre de professionnels. Désormais, ces derniers seront incités à rationaliser leurs soins puisque le forfait sera plafonné.
Tara Schlegel, merci. Emmanuel Macron exclut de modifier les droits de succession. Il l'a dit à ses collaborateurs lors d'une réunion à l'Élysée. Arrêtez d'emmerder les retraités, a lancé le chef de l'État pour justifier sa position. Emmanuel Macron qui désavoue ainsi Christophe Castaner. Le patron de La République En Marche avait déclaré vendredi vouloir une réflexion sans tabou sur la fiscalité des successions. Venons-en à présent à la crise qui secoue la mairie de Paris. Le premier adjoint, Bruno Julliard, annonce aujourd'hui sa démission en raison de profonds désaccords avec Anne Hidalgo. La maire de Paris qui s'est contentée d'un tweet en guise de réaction. « Je prends acte de la décision personnelle de Bruno Julliard. Je respecte son choix », écrit-elle. Anne Hidalgo, qui a déjà remplacé le démissionnaire, c'est l'adjoint au budget, Emmanuel Grégoire, qui devient son nouveau premier adjoint. Adrien Toffolé, on sait qu'Anne Hidalgo est en difficulté depuis plusieurs mois, mais la démission de Bruno Julliard est un vrai coup dur à 18 mois des élections municipales.
Effectivement, car Bruno Julliard, avant même d'être premier adjoint d'Anne Hidalgo, c'est un élément fort du PS et de la majorité à la mairie de Paris. Arrivé comme simple adjoint en 2008 grâce à Bertrand Delanoë, quelques temps après avoir quitté la tête de l'UNEF, d'abord à la jeunesse, puis à la culture, jusqu'à donc bras droit de la maire de Paris, avec une réputation qui s'est vérifiée au moment de la campagne municipale de 2014, celle d'être un bourreau de travail et de pouvoir rassembler et motiver des troupes. Bref, l'élément clé au parcours sans faute, ce qui devait le faire monter au plus haut. Julliard était même, aux yeux d'Anne Hidalgo, qui ne le cachait pas, son potentiel successeur naturel. Sauf que l'entente parfaite n'a pas duré. Du côté de certains élus parisiens, il se murmure que des tensions entre les deux, au fur et à mesure que les difficultés et les polémiques se sont succédées, ont commencé à apparaître, qu'il aurait même pu quitter la mairie dès le début de l'année. Sans dire le mot autoritarisme, Julliard explique qu'il n'arrive plus à parler avec Anne Hidalgo, qu'elle décide sans son conseil. à moins que la raison ne soit pas seulement un problème de communication ou d'ego, mais aussi un problème politique. Les municipales de 2020, à l'épreuve du macronisme et de l'éclatement du clivage droite-gauche, la configuration Anne Hidalgo, candidate de la coalition de gauche contre les autres, Bruno Julliard n'y croit pas. C'est à partir d'un projet que chacun aura à se positionner, disait-il ce matin. Sauf que visiblement, le projet ne lui convient pas, comme la personne qui le porte.
Adrien Toffolet, merci. Du côté de La République En Marche, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux serait le mieux placé pour les municipales à Paris selon les sondages. Mais son collègue Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, est aussi sur les rangs. « Je peux être un bon candidat pour Paris », déclare ce soir Mounir Majoubi dans une interview au Figaro. Invité de ce journal, le journaliste Héry Routier, auteur avec Nadia Lebrun d'un livre implacable sur Anne Hidalgo, « Notre drame de Paris ». Bonsoir.
Bonsoir.
Héry Routier, cette démission de Bruno Julliard, c'est une surprise ou bien ça n'est finalement qu'une confirmation de l'isolement d'Anne Hidalgo ?
Non, c'était prévu depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, depuis l'élection d'Emmanuel Macron et depuis les législatives qui ont vu une majorité de Parisiens donner une majorité claire à Emmanuel Macron. Donc il y a eu une débandade au Conseil de Paris qui ont rejoint Emmanuel Macron et depuis l'origine, Bruno Julliard se battait avec Anne Hidalgo pour lui disant il faut rejoindre Macron, sinon on va droit dans le mur. Donc ça, c'est la base politique du conflit. Ensuite, il y a eu effectivement des tas d'énervements sur les Vélib, sur les Autolib, sur les panneaux de déco. Tout ça a été géré, effectivement, tout le monde le sait, en dépit du bon sens. Mais Julliard aura quand même du mal à se dégager d'une gestion dont il était quand même le principal décisionnaire avec le maire de Paris.
Mais pour vous, c'est clair, Bruno Julliard a aujourd'hui rallié Emmanuel Macron, mais ce n'est pas ce qu'il dit.
Non, bien sûr qu'il ne le dit pas. Non, il ne le dit pas, mais c'est... Alors, en tout cas, depuis un an et demi, depuis l'élection, il conseille à Anne Hidalgo de faire allégeance ou de faire alliance avec Emmanuel Macron. Mais il y a aussi... ce qui s'est passé, c'est que Anne Hidalgo aussi ne le supportait beaucoup moins, pour différentes raisons, notamment, curieusement, à cause de... lui, c'est Bruno Julliard qui est à l'origine de la brouille avec Marcel Campion, le roi des forains, qui porte tort parce que c'est une population qui est décisionnaire pour les votes. Donc, elle lui reproche ça, elle lui reproche différentes décisions ou postures personnelles.
Elle lui reproche d'être trop à droite. C'est là aussi le nœud du conflit.
Non, je pense pas. Non, parce que Bruno Julliard n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il est là où son intérêt le porte.
Et en l'occurrence, la Macronie.
Oui, là où il pense avoir un avenir. Mais je c'est pas une question de politique, c'est une question d'opportunité. Et je ne vois pas. Il n'y a pas de réconciliation possible. Alors, ce que je voulais dire, c'est que Anne Hidalgo, le sondage du Journal du Dimanche, où elle est à égalité avec Benjamin Griveaux, lui a redonné totalement confiance tout d'un coup, parce qu'elle est assez erratique dans ses décisions, elle perd confiance, et là, ça lui donne un coup de boost. Elle s'est dit, si je suis à égalité avec Griveaux, je réunis les socialistes, les écolos, les communistes et les et je retrouve une majorité. Donc elle a mis Julia au pied du mur. Elle lui a dit bon, maintenant, c'était le week-end dernier, tu choisis, tu décides. Donc c'était donc c'est un conflit. Les deux ont des griefs contre l'autre.
Ça veut dire qu'Anne Hidalgo a choisi de donner un coup de barre à gauche dans la perspective des municipales.
Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit à gauche. Non, au contraire. Non, je pense pas que ce soit à gauche, puisque tout le monde sait bien que les idées vont plutôt au centre et que les macronistes sont plutôt au centre. Donc c'est pas un coup de barre à gauche, elle reste socialiste et elle pense que sur sa tête et sur elle-même, elle peut être en tête au premier tour et réunir les communistes, les écolos, pour avoir une majorité telle qu'elle l'a aujourd'hui.
Mais il va bien falloir se différencier du candidat d'Emmanuel Macron, que ce soit Benjamin Griveaux ou Mounir Majoubi.
Oui, alors à ce sujet, pour Bruno Julliard, il est convaincu que ce sera Édouard Philippe, hein, et que tout ça, que Majoubi et que Grimaud, c'est des lièvres, que ce sera Édouard Philippe, et que donc, lui, dans son ambition personnelle, il pense que Édouard Philippe, ça sera la droite, et que lui, ça sera la gauche. Donc, voilà, c'est un... Mais tout ça, c'est des plans sur la comète qui ne pèsent rien, qui sont des conjonctures politiques, mais qui ne pèsent rien par rapport à l'ambition personnelle. Et en ce qui concerne Julliard, la crainte d'être rattrapé par la patrouille sur différents dossiers, voilà, qui sont compliqués.
Merci Herri Routier d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je rappelle le titre de votre livre écrit avec Nadia Lebrun, Notre drame de Paris, paru l'an dernier chez Albin Michel. Le candidat de Donald Trump à la Cour suprême va-t-il être balayé par le scandale? En tout cas, le juge Brett Kavanaugh est aujourd'hui accusé d'agression sexuelle. Son accusatrice est une universitaire démocrate. Les faits présumés remonteraient à l'adolescence des deux protagonistes dans les années 80. Ces accusations pourraient bien compromettre la nomination de Brett Kavanaugh, chargé par Trump de faire basculer la Cour suprême des États-Unis dans le camp conservateur. Grégory Phillips nous appelle de Washington.
Christine Blasey Ford a raconté au Washington Post ce jour de 1982 où, selon elle, dans une soirée d'adolescents, le jeune Brett Kavanaugh, 17 ans à l'époque, aurait tenté de la déshabiller, de la violer, avant qu'elle ne parvienne à prendre la fuite. Les faits présumés sont anciens, mais cette professeure de psychologie de l'université de Palo Alto en Californie dit qu'elle est prête à témoigner devant le Sénat. Je pense que son histoire doit être entendue et examinée, disait ce matin son avocate, Debra Katz, sur la chaîne ABC. Jusqu'ici, le juge Kavanaugh refuse de reconnaître qu'il connaît cette femme, et même qu'il est allé au lycée avec elle, mais de nombreux témoignages expliquent qu'à l'époque, dans cette école, il y avait une culture de soirée très arrosée, de comportements inappropriés, et Kavanaugh faisait partie de ce groupe de jeunes gens. Dans un communiqué, le magistrat explique qu'il est prêt à défendre son intégrité devant les sénateurs pour réfuter ces accusations. Et à la Maison-Blanche, la conseillère du président Kellyanne Conway disait ceci sur Fox News ce matin. Eh bien, cette femme ne doit être ni insultée, ni ignorée. Il faut qu'elle soit entendue sous serment, et le juge Kavanaugh aussi, à propos de ces accusations. Le comité judiciaire du Sénat pourrait retarder son vote prévu jeudi. Vote extrêmement important, car le juge Kavanaugh est un conservateur dont la nomination, si elle a lieu, pourrait faire pencher l'équilibre fragile de la plus haute institution judiciaire du pays.
En Espagne, le chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez, veut en finir avec les privilèges juridiques des responsables politiques. La réforme constitutionnelle qu'il propose prévoit de les traduire, le cas échéant, devant un tribunal ordinaire. Aujourd'hui, ces responsables, mais aussi les policiers, relèvent d'une cour supérieure. Pedro Sanchez veut adopter cette réforme en 60 jours pour bien montrer sa détermination à lutter contre la corruption. Mathieu Le Taillac nous appelle de Madrid.
Il n'y a pas en Espagne une immunité parlementaire comme en France. Tous les élus au Parlement espagnol, comme dans les chambres régionales, peuvent être jugés sans que les assemblées n'aient à donner leur avis. Cependant, ils bénéficient de ce qu'on appelle en espagnol un aforamiento, c'est-à-dire le bénéfice d'être jugés non pas par les tribunaux ordinaires, mais par des cours supérieures. La Cour supérieure de justice de leur région, pour les parlementaires des communautés autonomes, la Cour suprême, pour les députés, pour les sénateurs. La procédure de l'aforamiento tend à prolonger les délais de la justice, déjà réputés très lente. Par exemple, le chef de file du Parti populaire, Pablo Casado, de droite, serait déjà mis en examen pour une affaire de master obtenue dans des conditions suspectes. Il le serait s'il n'était pas député. Sa condition de parlementaire oblige le juge d'instruction à demander à la Cour suprême de bien vouloir reprendre le dossier. Voilà le genre de pratique auquel Pedro Sanchez veut mettre fin, avec quelques bémols, car la fin de cette protection juridique ne s'appliquerait qu'aux délits non liés aux fonctions des élus. Conduire en état d'ivresse relèverait des tribunaux ordinaires, par exemple, mais on ignore encore quels tribunaux jugeraient les affaires de corruption. Sanchez a besoin de son grand adversaire, le Parti populaire, le PP, pour faire passer sa réforme. Il se donne 60 jours, soit le PP accepte, soit il devrait expliquer pourquoi il refuse de mettre fin à ce privilège des élus.
Mathieu Le Taillac, correspondant en Espagne. Pêcheurs français et britanniques ont trouvé un accord ce soir pour mettre fin à ce que l'on a appelé la guerre de la coquille Saint-Jacques. Ils ont adopté un calendrier commun de pêche du précieux mollusque en baie de Seine. Fin août, des incidents avaient éclaté entre les deux parties en pleine mer. Le temps demain, plus nuageux au nord le matin, avant le retour d'éclaircies dans l'après-midi, de la Nouvelle-Aquitaine à la Lorraine, en passant par la Bourgogne. Quelques orages sont possibles l'après-midi. Orages également possibles sur les relais relief. Partout ailleurs, le soleil s'imposera. Les températures restent estivales, de 10 à 21 degrés pour les minimales, de 20 à 32 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.